Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous devons bien utiliser évidemment cette dernière semaine, cette dernière ligne droite avant la fête de Noël, bien utiliser toutes les grâces que le bon Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, notamment certainement des grâces pour nous permettre d'atteindre la grotte de Bethléem, la nuit de Noël, avec un cœur bien pur et une âme bien en état de grâce. Je serai à votre disposition tout en fin de semaine pour cette confession, si c'est nécessaire pour vous, pour chacun d'entre nous. Et s'il faut essayer de trouver quel est l'état d'esprit qui doit être le nôtre pendant cette dernière semaine, eh bien vous avez ce texte magnifique dans Saint Paul, 1 aux Corinthiens, l'épître qui a été choisi par la Sainte Église, justement pour nous aider à nous mettre dans les dispositions propres et nécessaires pour utiliser toutes les grâces de la Nativité. Un texte assez incroyable de Saint Paul. Saint Paul parle à tous les hommes. Il ne parle pas simplement aux prêtres. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que nous sommes les ministres de Dieu, les ministres des mystères du Christ. Et qu'est-ce qu'on demande à un ministre? On demande la fidélité. On pourrait croire que seuls les prêtres sont ministres. Et d'après saint Paul, les fidèles aussi. Bien sûr, il faut bien comprendre le texte, garder dans l'esprit l'Église. Il y a une différence essentielle entre le ministère du prêtre et le ministère des laïcs. Mais dans les deux cas, il y a un ministère. D'où vient ce ministère? Ce ministère vient du fait que tous les chrétiens, tous les catholiques, prêtres et laïcs, ont tous reçu la grâce du sacrement de baptême. Et donc il y a un caractère qui oblige déjà à une manifestation publique de la foi catholique, le caractère du baptême. Et par le caractère du baptême, nous sommes enfants de Dieu. Donc les prêtres et les fidèles ont en commun ce caractère du sacrement de baptême. Bien sûr, le prêtre a un deuxième caractère. Un deuxième caractère qui est le caractère du sacerdoce qui fait de lui un ministre à part entière de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne faut pas, bien sûr, tomber dans le modernisme et mettre les deux ministères au même niveau. Le prêtre a un ministère propre, il est le seul qui puisse offrir le sacrifice de la messe, il est le seul qui puisse pardonner les péchés, mais il ne faut pas dire non plus que les fidèles n'ont aucun ministère. D'après saint Paul, ce texte du 1 aux Corinthiens dit bien que nous avons ce ministère. Et d'où vient ce ministère? Ce ministère vient de l'obligation qu'il y a pour chaque catholique de professer sa foi publiquement. Il ne faut pas croire qu'il y a une obligation de professer sa foi simplement à la chapelle le dimanche et au pied de son lit quand on fait la prière du matin ou la prière du soir ou quand on récite le chapelet dans la journée. Il y a l'obligation de manifester publiquement sa foi parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande justement à cause de ce baptême d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Si nous sommes le sel de la terre, si nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que nous devons publiquement manifester notre foi catholique. On ne pourrait pas croire que seuls les prêtres sont mis en lumière du monde et sel de la terre. Tous les catholiques doivent être le sel de la terre et la lumière du monde. Bien sûr, par du bon sens. Il faut comprendre ce texte magnifique de saint Paul avec dans l'esprit de l'Église. Je ne vais pas vous demander d'aller vous mettre à un coin de rue et commencer à prêcher la foi catholique, ce n'est pas ça. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous demande, dans notre façon de nous comporter, dans notre comportement en famille, notre comportement professionnel, notre comportement social, les gens qui sont autour de nous, d'avoir de manifester justement par la façon dont nous vivons la foi catholique. Nous sommes enfants de Dieu, mes bien chers frères. Et si ce titre d'enfant de Dieu nous donne, si vous voulez, nous ouvre une porte extraordinaire qui est la porte du ciel, avec la grâce du bon Dieu, ce titre d'enfant de Dieu entraîne pour chacun de nous des obligations tout aussi graves. Je ne ferais pas croire que parce que je suis baptisé, donc je prends la route qui me mène au ciel, et puis mes obligations s'arrêtent là. Pas du tout. L'obligation pour nous, ce n'est pas simplement d'avoir la foi pour nous-mêmes et de la conserver. Il s'agit pour nous de la manifester à l'extérieur. Notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit à ses disciples, allez baptiser, prêcher. Allez baptiser, prêcher, c'est-à-dire manifester par votre façon de vivre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit cela simplement à ses apôtres. Certes, il s'adressait d'abord aux premiers évêques de l'Église, c'est-à-dire les apôtres, mais il a envoyé prêcher aussi des tas de laïcs. La région dans laquelle nous vivons ici a été en grande partie catholicisée par toute la prédication de l'épouse de Saint Jachée, le petit homme de l'Évangile, et qui était trop court, trop petit, qui ne pouvait pas voir notre Seigneur Jésus-Christ, était monté sur un sycomore, me dit l'Évangile, pour voir notre Seigneur. Notre Seigneur s'est arrêté sur le sycomore et lui a dit, Zachée, aujourd'hui je vais manger chez vous. C'est la conversion de Zachée. Eh bien, l'épouse de Zachée, c'était le Saint Jachée, il est canonisé par l'Église. L'épouse de Saint Jachée, c'était Sainte Véronique. Et Sainte Véronique est celle, son vrai nom c'était Bérénice en fait, Sainte Bérénice est celle qui a justement catholicisé, amené la foi ici, dans toute la région d'Aquitaine. Donc, on comprend là la nécessité pour nous de nous remplir du bon Dieu pour pouvoir justement, après, transmettre aux autres ce que nous avons reçu. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et où recevons-nous les choses? Où se trouve en quelque sorte la réserve d'énergie et de grâce que le bon Dieu a préparée pour chacun d'entre nous? Cette réserve d'énergie et de grâce, mes chers frères, se trouve au très saint sacrement de l'autel. Se trouve au très saint sacrement de l'autel. Et c'est cette réserve de grâce qui va nous donner ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité, c'est la grâce des grâces. Si la fidélité est maintenue jusqu'au bout, la fidélité va nous ouvrir directement la porte de la plus importante des grâces qu'on puisse recevoir dans notre vie, à savoir la grâce de la vie éternelle. La mort est un état de grâce. Et pour pouvoir prétendre à cette mort en état de grâce, il faut la fidélité. Fidélité dans les petites choses pour être capable d'être fidèle aussi dans les grandes choses. Donc rappelons-nous, mes bien chers frères, que nous sommes tous ministres de notre Seigneur. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas dire que le ministère du prêtre est le même que le ministère des fidèles, mais il ne faut pas non plus dénier que le bon Dieu a voulu donner à tous les catholiques une obligation de manifester leur foi catholique. Regardez tous les bandits qui nous entourent. Regardez tous les bandits qui nous entourent et qui se sentent obligés, non seulement de se corrompre eux-mêmes, mais de corrompre tous ceux qui sont autour d'eux. Alors, si les bandits qui sont autour de nous se sentent obligés de corrompre tous ceux qui sont autour d'eux pour faire de plus en plus d'émules pour aller en enfer avec eux, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous, catholiques, qui avons la chance du baptême, la grâce du baptême, mais il faut aussi essayer de donner en quelque sorte le contrepoison à la révolution qui nous entoure, et c'est que ce contrepoison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Voilà donc l'enseignement de Saint Paul. Et là-dessus se grève, si vous voyez, l'enseignement, qui est exactement le même d'ailleurs, l'enseignement de Saint Jean-Baptiste. L'Église a justement choisi comme texte ce texte qui explique la prédication de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste ne pouvait pas encore donner un baptême de pénitence. Pas encore le sacrement de baptême au sens propre, mais un baptême de pénitence qui préparait déjà à la réception du baptême d'eau. Eh bien, ce baptême de pénitence, nous dit l'Évangile, nous amène à la rémission de nos péchés, au pardon de nos péchés. Et donc, le temps, la dernière semaine de l'Avent, doit être utilisé par chacun d'entre nous, eh bien, chers frères, justement pour nous préparer en quelque sorte à amener nos péchés à la porte du confessionnal pour la fête de Noël. On a beaucoup de mal parfois à comprendre que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir peut-être au bon Dieu sont nos péchés. Elle me dit, monsieur Abbé, quelle drôle d'idée d'offrir les péchés à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est exactement l'esprit de l'Église. Qu'est-ce que veut recevoir notre Seigneur Jésus-Christ à la crèche de Bethléem, le jour de sa naissance, ici parmi nous? Il veut recevoir nos péchés, non pas pour que nous les conservions, mais pour que nous comprenions que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir, mais il est aussi venu sur la terre pour, par sa mort, nous donner la rédemption de nos péchés. Donc le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'offrir nos péchés à notre Seigneur Jésus-Christ le jour de Noël, pour que justement il puisse les pardonner. On dit, et c'est vrai, que la plus belle joie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de pardonner aux pécheurs. Et beaucoup de saints, Saint Alphonse de Ligurie entre autres, disent que le Dieu est plus grand quand il pardonne, quand il crée. Dieu est beaucoup plus grand quand il utilise sa miséricorde que quand il utilise sa justice. C'est une chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Il y a parfois dans les milieux de la tradition une tendance que je pourrais considérer un peu comme tendance rigoriste, une tendance janséniste même. Plusieurs fois, j'ai eu des remarques au cours de mon sacerdoce de gens qui venaient, des catholiques de tradition, qui venaient me reprocher de parler de la miséricorde, du bon Dieu. Alors qu'on voit très bien dans l'Évangile la multitude de paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer, réexpliquer à longueur de temps, justement sur la miséricorde. Rappelez-vous la parabole, par exemple, de la brebis perdue, la parabole de l'enfant prodigue, toutes ces magnifiques paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ utilise justement pour bien faire comprendre que si son cœur est ouvert sur la croix au soir du Vendredi Saint, ce n'est pas pour rien. C'est précisément pour que nous puissions amener dans ce cœur, c'est la même idée, tous nos péchés, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang, puisse effacer ses péchés, condition bien sûr qu'on regrette. Il est évident que quand je vous dis qu'il y a le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont nos péchés, il est évident que ce sont les péchés offerts avec un cœur contrit, avec un cœur pénitent. Notre Seigneur Jésus-Christ exerce sa miséricorde à l'égard du pécheur pénitent. Bien sûr, un pécheur qui ne veut pas se convertir, c'est autre chose. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'une personne ne veut pas se convertir, lorsqu'une personne ne veut pas sortir du péché grave, il est évident qu'il va littéralement obliger le bon Dieu à utiliser contre lui sa justice ou d'utiliser la miséricorde qu'il préfère utiliser. Ça dépend de nous. Donc, utilisons bien ce temps de Noël également pour, c'est le texte de l'évangile d'aujourd'hui, pour préparer les voies du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire préparer les voies du Seigneur? Préparer les voies du Seigneur, c'est tout simplement libérer en quelque sorte nos âmes de tout le fatras mondain qui occupe notre âme et qui prend la place du bon Dieu. Dernière semaine avant Noël, c'est ça, c'est-à-dire ouvrir notre cœur, enlever de notre cœur toutes les choses qui ne devraient pas y être, pour que le bon Dieu ait place dans notre cœur. Le bon Dieu ne va pas rentrer dans notre maison comme un voleur. Il ne va pas fracturer les portes pour rentrer, il frappe à la porte. À condition qu'on ouvre la porte, il va rentrer. Mais il ne va pas rentrer chez nous si on ne veut pas ouvrir la porte. Donc le bon Dieu va nous demander de purifier notre cœur, justement pour qu'il puisse y rentrer et s'y sentir chez lui. Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse se sentir chez lui si notre cœur est occupé avec une série de choses qu'il n'y a rien à faire là-dedans? Il ne peut pas. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ veut devenir maître de nos intelligences. C'est logique. Puisqu'il nous a donné, il nous a donné notre intelligence pour que nous puissions comprendre le vrai. Le vrai, par excellence, avec un V majuscule, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier occupant de notre intelligence, ce doit être notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si notre intelligence est complètement encombrée par toute une série de fausses vérités, comment voulez-vous que le bon Dieu rentre là-dedans? Encore une fois, il reste à la porte en attendant que la place soit laissée libre. Pareil pour notre volonté. Le bon Dieu nous a donné une volonté pour atteindre justement le vrai. On le découvre par l'intelligence et on l'atteint par la volonté. Mais encore une fois, notre volonté doit être soumise à notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ voit que notre volonté est soumise à toutes les choses du monde, à toutes les maximes du monde, à tous les faux principes de liberté, d'égalité et fraternité, mais il reste à la porte, il attend. Il attend. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas attendre tout le temps. Il faut craindre la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Alors pourquoi l'Évangile d'aujourd'hui va rappeler toutes ces nécessités pour nous de rendre droit, par exemple, les sentiers qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire rendre droit les sentiers? On a souvent une volonté qui est un peu en zigzag, si vous voulez, parce qu'on a du mal à garder le cap qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, rendre droit ces sentiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire dégager de notre âme la volonté propre. La volonté propre étant le pire ennemi de l'homme moderne, le pire de nos ennemis, si on met de côté la volonté propre, si on la pousse dehors, à ce moment-là, le bon Dieu peut rentrer dans nos âmes et mettre dans nos âmes non pas l'amour de notre volonté propre, mais l'amour de sa volonté à lui. Alors parfois, le bon Dieu va s'y prendre avec des moyens assez percutants. Prenez par exemple la conversion de Saint Paul. Il n'est pas allé par quatre chemins. Saint Paul est sur le chemin de Damas avec une idée, c'est emprisonner et envoyer aux fers et aux bêtes tous les chrétiens qui peuvent tomber entre ses mains. Notre Seigneur Jésus-Christ le précipite de son cheval, l'aveugle, et lui dit, Paul, pourquoi, Saul, pourquoi me persécutez-vous? Notre Seigneur Jésus-Christ, saint Paul va répondre, mais qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que vous persécutez. Alors évidemment, les cas de conversion pareils, des cas d'appel pareil de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est ouvrir sa porte. Mais attention, saint Paul a ouvert la porte de son âme, mais ça ne s'est pas fait sans lutte. C'est pareil pour saint Matthieu, et tous les apôtres d'ailleurs. Mais saint Matthieu, c'est encore clair. Saint Matthieu est un pharisien qui s'occupe du change de la monnaie pour le temple. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ arrive et lui dit, viens, suivez-moi. Venez, suivez-moi. Et saint Matthieu se lève pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien, c'est la même chose pendant cette semaine avant Noël. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire, venez, levez-vous, suivez-moi. Il ne faut pas dire à notre Seigneur, écoutez, mon Dieu, je vous aime bien, mais j'ai tas de choses à faire cette semaine. J'ai pris ça, ça, ça et ça, puis j'ai mes petits rendez-vous, j'ai mes petites choses à faire. Alors écoutez, je vous aime bien, mais je n'ai pas le temps, pas trop le temps pour vous. Revenez dans 15 jours ou dans 3 semaines. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ a le droit d'exiger une réponse immédiate. Et c'est à nous, justement, d'utiliser en quelque sorte toutes les grâces du bon Dieu qui nous a préparées pendant cette dernière semaine avant la fête de Noël, d'utiliser toutes ces grâces pour précisément, dit l'évangile d'aujourd'hui, pour combler les vallées et abaisser les collines. Qu'est-ce que ça veut dire? Combler les vallées, justement, les vallées, si vous voulez, sont des obstacles. Pourquoi? Parce qu'il faut descendre, après il faut remonter de l'autre côté, c'est bien fatigant. Alors, combler les vallées, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'arranger pour qu'il n'y ait plus de trous dans le chemin, que le chemin soit bien lisse. Et cela, c'est le symbole, si vous voulez, de la paix intérieure. Quand une âme est en paix intérieure, quand une âme est en état de grâce devant le bon Dieu, cette paix intérieure donne justement une joie extraordinaire, parce que nous savons que nous portons notre croix, bien sûr, mais que nous portons notre croix au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les collines abaissées, pourquoi faut-il raser les collines? Parce que la colline, nous disent les pères, les collines, c'est le symbole de l'orgueil. Et donc, si on veut arriver à la crèche de Bethléem, il faut peut-être prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Il faut donc retrouver la paix intérieure, abaisser les collines de l'orgueil, éliminer les collines de l'orgueil pour justement, à ce moment-là, retrouver un chemin uni, un chemin beau et propre qui mène à la crèche. Ça, c'est le symbole de la vertu d'humilité. Vous ne voyez pas que la fidélité dont parle saint Paul en l'épître d'aujourd'hui, la fidélité n'est possible que dans la mesure où, justement, nous gardons ce combat terrible qui est fondé sur la vertu d'humilité. La première condition pour s'approcher de la crèche, c'est l'humilité. Celui qui est plein de lui-même et qui agit un peu comme le pharisien de l'évangile, qui dit « moi je fais ça, ça et ça et ça et ça », eh bien il n'aura rien du tout. Au contraire, celui qui arrive avec humilité, comme les bergers à la crèche, comme les rois mages aussi à la crèche, qui malgré leur richesse ont eu cette humilité de suivre l'étoile pour retrouver notre Seigneur Jésus-Christ, tout de suite, ils tombent à genoux et ils adorent. Et à ce moment-là, bon Dieu donne les grâces. On voit très bien chez les rois mages. Les rois mages arrivent, ce sont des païens. Ils se mettent à genoux, ils adorent notre Seigneur Jésus-Christ. Ils trouvent la foi par la présence du bon Dieu. Et ils repartent, nous dit l'Évangile, ils repartent chez eux par un autre chemin. Ça veut dire un autre chemin. Un autre chemin, ça veut bien dire qu'ils ont changé de vie, donc ils doivent ne plus agir comme avant. Et bien, à ce moment-là, ils vont changer de chemin pour continuer de porter la croix derrière notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, ça leur a coûté cher. La tradition dit que les trois rois mages, les trois, ont commencé à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ à retour dans leur pays, et ils ont tous été assassinés, ils sont tous morts martyrs. Saint Melchior, Saint Gaspard, Saint Balthazar. Et le bon Dieu demande la même chose. Le bon Dieu nous demande aussi d'arriver à la crèche, de déposer tous nos péchés au pied de la crèche, et de tomber à genoux pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va nous renvoyer chez nous par un autre chemin. Nous aurons en nous, avec la grâce du bon Dieu, cette grâce de la paix, cette grâce de la joie, cette grâce de savoir que maintenant nous sommes au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, ça ne se fera pas sans casse. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, saint Paul le répète à longueur de page dans ses épîtres, nous prêchons un Jésus crucifié, un Christ crucifié. On ne va pas prêcher simplement un Christ glorieux. Pour arriver au Christ glorieux, il faut passer par la voie de la croix. Voilà pourquoi les personnes qui ne veulent pas de la croix, ben, ne peuvent pas rentrer au paradis, parce que justement, cette croix permet comme une échelle qui monte au paradis. Alors une fois, mes bien chers frères, pour justement des bons dispensateurs, nous dit saint Paul, dispensateurs des mystères de Dieu, pour être des bons dispensateurs des mystères de Dieu, eh bien, il faut prendre exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ et sur sa mère, bien sûr. La dernière semaine dans la liturgie, on le voit très bien, surtout dans la liturgie du bréviaire, la dernière semaine avant Noël est justement imprégnée de cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Et toutes ces belles prophéties d'Isaïe, du prophète Isaïe, justement, qui préparent nos cœurs à arriver vers notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'à la crèche, à la porte de la crèche, qui trouvons-nous? Nous trouvons notre Sainte Vierge de Marie, nous trouvons Saint Joseph, qui sont tous les deux à l'accueil, en quelque sorte. L'âme arrive, tout peut-être un petit peu fatiguée par le chemin, un peu boiteuse, parce qu'il y a encore des petites choses qui ne vont pas en elle. Eh bien, Saint Joseph vient nous soutenir le bras gauche. La Sainte Vierge Marie vient de l'autre côté pour nous soutenir le bras droit. Et puis, ensemble, il nous amène à qui? Il nous amène au Sacré-Cœur. Il nous amène au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et nous aide à nous mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ qui, tout en restant la deuxième personne de la Sainte Trinité, devient homme, a voulu unir en sa personne la divinité à l'humanité. La divinité pour nous sauver, l'humanité pour mourir. Alors si nous sommes un petit peu perdus, si nous avons bien du mal de justement lâcher toute une série de choses pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, si notre cœur saigne parce que justement on voudrait s'attacher à d'autres choses auxquelles on n'a pas le droit de s'attacher, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie justement nous aidera à nous avancer jusqu'à la crèche, et même si on a un petit peu d'hésitation à rentrer dans la grotte, nous disons non, venez, suivez-moi. Là où est Marie, là est notre Seigneur Jésus-Christ. Là où est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie, parce qu'on ne sépare pas le roi de la reine. Donc demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces à notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie pour ne pas gaspiller cette dernière semaine de préparation à la fête de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.